Bonjour Frédéric Huttmann au micro, j'ai le plaisir de vous retrouver pour un nouvel entretien. Jeudi, j'ai l'immense plaisir de recevoir Joanne Farjou, bonjour.
Bonjour, merci de me recevoir.
Mais non, c'est moi qui suis ravi, je vous reçois à l'occasion de la parution de deux disques finalement très complémentaires, mais pas si différents que ça finalement dans le, ce qui les guide, mais peut-être que je m'égare. Un qui s'appelle Sisters pour le label Clart, consacré aux deux sœurs Lily et Nadia Boulanger avec des compositions des deux. Pour piano et avec en guest star Karine Dehaye pour une mélodie inédite, Mon âme, et un autre disque, alors des compositions de vous, Joanne Farjou, sur des poèmes de David Tepfer. Et alors, ce compagnonnage avec ce poète David Tepfer, dont les poèmes sont tantôt dits, tantôt chantés, c'est quoi? C'est un compagnonnage ancien? C'est un projet ancien?
Non, c'est un projet de confinement, donc un projet relativement récent. Mais comme beaucoup d'artistes, en fait, on s'est retrouvés enfermés chez soi. Et pourtant, avec toujours un désir bouillonnant de création. Et il se trouve que David Tepfer a fait partie d'une constellation d'artistes qui se sont entraînés, soutenus, notamment autour de la figure de Karine Dehaye, parce qu'ils sont voisins. Et je l'ai rencontré un peu par hasard. En fait, David Tepfer est vraiment un soutien des arts. Il a un lieu de résidence qui au passage de la Main d'Or, qui s'appelle l'Atelier de la Main d'Or, qui est vraiment un lieu incroyable où il organise des enregistrements, des répétitions, etc. Par cette entremise, je l'ai rencontré et puis on a fini par parler création. Il m'a expliqué qu'il écrivait une série de 4 romans, et que le protagoniste était un poète et que donc dans son roman figuraient des poèmes. Je m'y suis intéressé, je me suis dit mais absolument de façon évidente qu'il fallait qu'on collabore musicalement ensemble.
Alors ce disque, il y a quand même une belle affiche puisqu'il s'ouvre par un texte dit par Rosemary Sandley. Et puis après, vous avez David Tepfer qui va clôturer ce disque sur un poème aussi qu'il va dire. Entre-temps, on aura écouté Jeanne Gérard, Sandrine Pio, Ambroisine Bré, Delphine Edan, Stanislas de Barberac, ça c'est pour les chanteurs. Et puis il y a la violoniste Geneviève Laurenceau, l'altiste Arnaud Torrette, dont vous êtes un proche puisque vous faites partie de cet ensemble Contraste, notamment à ses côtés. Mathilde Calderini, magnifique flûtiste. Un autre magnifique pianiste qui est David Cadouche pour plusieurs œuvres, dont une œuvre en solo. Et vous, Joanne Farjou, compositeur et pianiste, puisque c'est sous cette double casquette que j'ai le plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Pourquoi vous avez confié à David Cadouche, qui est un autre magnifique pianiste, le soin d'interpréter un cycle de poèmes et une œuvre pour piano solo? Pourquoi c'est pas vous qui avez joué ces œuvres?
Alors je dirais pour 3 raisons. La première raison, c'est que c'est un artiste que j'admire depuis tout le temps, qui est en plus un être humain délicieux. Et donc, vous avez vu, j'ai de la chance quand même, une distribution pareille. Je me sens le plus chanceux des compositeurs sur Terre. Donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison est que parfois, le compositeur a besoin de recul. Il a besoin de prendre de la distance, un peu comme Michel-Ange devait descendre de son échelle pour observer son œuvre. Alors, loin de...
Oui, on a bien compris, vous ne cherchiez pas à vous assimiler.
En toute humilité quand même, hein, évidemment, je ne veux pas... Mais c'est pour prendre la distance, m'écouter, être en cabine et puis voir aussi... comment faire évoluer mon métier de compositeur quand d'autres interprètes le font. Et puis la troisième raison, c'est qu'il y avait des œuvres qui étaient très difficiles, tout simplement, et je me suis dit...
Ça va, on ne peut pas dire que vous soyez... Alors c'est vous qui vous imposez des difficultés en tant que compositeur.
Probablement, oui.
Oui, enfin, David Cadouche, c'est un magnifique pianiste, mais on ne peut pas dire que vous soyez démuni de moyens.
Non, mais en effet, j'aurais pu les jouer, mais lui, il les a fait tellement bien que je ne suis pas mécontent de ce choix.
Alors donc il s'ouvre ce disque justement par un texte dit, alors j'avoue ma grande ignorance, et vous m'avez dit hors micro, c'est qu'une grande star de musique actuelle, Rosemary Sandley, et il se clôture par un poème dit par David Tepfer, donc l'auteur lui-même. Donc c'est un peu les deux pôles de cette œuvre, de ce cycle de poésie. Vous avez choisi un peu d'aller à l'écart de grands chanteurs classiques pour confier l'ouverture et la fermeture de ce cycle à deux personnes qui sont éloignées de cet univers.
Oui, parce que d'une part, c'est de l'américain. N'oublions pas que toutes ces poésies sont en américain. Et il se trouve que Rosemary Sandley est moitié française, mais aussi américaine. Et donc, elle a un américain parfait. David Tepfer est un américain à Paris. Et je voulais déjà qu'on ait des sonorités américaines. Même si David Tepfer le dit dans le livret du disque, il est ravi que ce soit des chanteurs français qui chantent avec un accent, parce qu'il voulait que ce projet reste cosmopolite, un peu comme sa vie. Mais malgré tout, c'était pour avoir de l'américain. Puis aussi, quelques poésies parlées, il y en a deux, hein, l'ouverture et la fermeture, comme vous le dites. Avoir de la poésie parlée, c'est aussi un peu l'essence de ce projet, ça part de poésie.
Alors il y a un merveilleux chanteur, un merveilleux ténor, qui est Stanislas de Barberac, mais hormis Stanislas de Barberac, c'est que des voix féminines, c'est une coïncidence. C'est quoi, en composant, vous avez été plus guidé vers des voix féminines
Peut-être. Alors c'est
il y a tous les tendus d'ailleurs, il y a mezzo, soprano.
C'est vrai, c'est vrai. Après, c'est une histoire d'amitié, comme d'habitude, un disque, parce que c'est une telle aventure.
Vous choisissez bien vos amis.
Oui, je l'ai choisi bien, mais il se trouve que c'est un peu le hasard. Les coïncidences sont-elles les coïncidences? Freud nous en dira davantage. Il y a plus de femmes, effectivement.
Alors, l'esthétique de ce disque, justement, quand on pose sur sa platine un disque d'un compositeur actuel, on attend avec impatience de savoir justement à quelle esthétique où ça va correspondre. Et vous, justement, on a l'impression que vous fichez un peu d'entrer sous une chapelle et que vous composez selon votre cœur.
Exactement, je compose selon mon plaisir. En fait, je ne suis plus tétanisé. J'ai cette chance d'être au 21e siècle.
Oui, vous êtes à une génération où on n'est pas tétanisé comme
exactement.
Vous étiez des générations précédentes.
Tétanisé d'écrire dans un style ou dans l'autre. C'est-à-dire qu'il fallait faire des choix qui étaient parfois considérés comme courageux. Et c'est vrai que je n'ai plus aucun courage. Moi, j'écris la musique que je veux. Alors, il y a encore des chapelles. Elles s'affrontent encore violemment. Hein. Il y a encore beaucoup de polémiques qu'on pourrait voir. Mais je m'en sens très éloigné. D'autant plus que moi, j'écoute les deux chapelles avec plaisir et admiration.
Alors, il s'ouvre justement par. Il y a beaucoup d'arpèges. Il y a un goût chez vous très mélodique dans le piano. Souvent, il y a des grandes envolées lyriques au piano dans tout ce qu'on écoute sur ce disque, Lovescape. Mais il s'ouvre quand même par des notes justement un peu répétées, lentes, une sorte de psalmodie lente qui est assez différente du reste de l'œuvre en fait.
Oui, alors c'est aussi parce que j'ai comme influence la musique américaine et notamment la musique minimaliste américaine qui utilise un matériau extrêmement réduit pour ensuite fabriquer par déphasage, par variation, des œuvres à plus grande échelle. Et cette influence-là est inévitable, d'autant plus que le texte est en américain. Et puis les États-Unis m'influencent de plein de points de vue. Même la musique pop, finalement, la musique pop, c'est un matériau, je dirais surtout pas pauvre, hein, parce que la musique pop est très riche, mais un matériau qui parfois est économe. Et à partir de ça, on peut en faire des grandes œuvres.
Alors quand on voit votre itinéraire au CNSM, et vos professeurs, il y a Michael Levinas, Thierry Esquèche, Zsolt Nagy, c'est des univers aussi très différents, enfin des esthétiques très différentes.
Oui, et ça m'a aidé aussi à... Surtout, en fait, moi j'ai cette tendance, mais c'est personnel, et je veux surtout pas mettre d'autres compositeurs dans ce sac-là. Pour moi, la composition est un artisanat, et donc il faut maîtriser son artisanat, sa technique. Et donc je suis ravi d'avoir eu sur ma route des professeurs qui avaient cet artisanat à un très haut niveau.
Et alors comment ça s'est passé au niveau de vos études parallèlement à vos études de pianiste vous avez pris des cours de composition enfin, c'était parallèle ou c'est après
Oui, tout était un peu en même temps. Bah, j'étais un jeune homme et malheureusement ce jeune homme s'éloigne petit à petit. C'était au siècle dernier que j'ai intégré le Conservatoire de Paris parce qu'en plus de ces influences américaines dont je vous parlais, puis plein d'autres influences, notamment le jazz qui occupe beaucoup ma vie en ce moment, eh bien je suis un pur produit du Conservatoire de Paris et je vous dis ça sans cynisme, je vous dis ça avec fierté, mais j'ai reçu ces influences-là et elles sont essentielles dans la constitution de mon langage.
Et au jazz, vous écoutez, c'est quoi vos pianistes c'est des pianistes du passé que vous idéalisez
C'est un peu tout. Pour moi, le jazz est un art très très actuel. J'ai la chance d'avoir une série au Bal Blomet. Tous les 15 jours, j'y anime avec mon collègue Raphaël Imbert, saxophoniste, les Mille et Nuits du jazz. Et donc, j'invite toute la scène avec mon ami Raphaël. On invite toute la scène actuelle de jazz. Donc, c'est à la fois un art passé, parce que le jazz, c'est un art... vraiment d'enregistrement aussi, beaucoup plus que la musique classique, qui est un art de partition et de restitution. Mais le jazz est tout le temps en évolution et j'ai cette chance de la côtoyer au quotidien.
Mais vous, dans vos études, parce que le lien entre les pianistes classiques et les pianistes de jazz, le passage de l'un... Bon, il y a eu Frédéric Gulda ou quelques pianistes qui ont excellé dans les deux genres, mais est-ce que vous pensez qu'on peut être un très très bon pianiste dans les deux genres ou alors pour vous, c'est... ils sont étanches l'un avec l'autre.
Ben, je pense que c'est de moins en moins étanche. Il y a effectivement un cloisonnement, il y a une méfiance et en même temps une admiration réciproque.
Mais ah bah, plus... Quand on connaît l'admiration d'Horowitz pour Tatum ou d'autres.
Par exemple, exactement.
Enfin, parce qu'on peut en prendre un des exemples les plus illustres.
Vous avez raison, et je pense que l'inverse était vrai. Les musiciens de jazz enviaient les classiqueux, comme on dit dans mon, jargon. Mais je pense que ces cloisons ont tendance maintenant petit à petit à devenir de plus en plus poreuses. Il y a encore beaucoup d'avancées à faire. Mais après, déjà, être comme musicien classique à des niveaux parfois qui sont extraterrestres pour certains, c'est déjà quelque chose de tout à fait admirable. Moi, il se trouve que j'essaye d'alterner dans l'un et l'autre, et l'un et l'autre me nourrissent et nourrissent l'art de l'autre.
Alors justement, ce qu'il y a de passionnant dans ce disque Lovescapes qui vient de paraître pour le label Alpha Classique, c'est que on n'est pas dans le jazz, mais quand même il y a des sources, enfin on sent des influences, et même au niveau du toucher, alors peut-être que je m'égare, mais on sent des influences comme des pianistes comme Bill Evans ou d'autres pianistes, mais je ne sais pas si ça fait partie de votre panthéon.
Ah bah ça m'honore, parce que ce sont des gens que je place au plus haut, bien sûr.
Qui eux, justement, se sont lancés aussi dans la réinterprétation de thèmes classiques, à l'inverse.
En effet.
Avec les arrangements, alors je ne sais plus, je n'ai pas révisé.
Mais parfois même les musiciens de jazz jouaient le classique dans la partition, je pense à Cat Jarrett qui jouait Mozart littéralement.
Oui, mais alors parfois il peut y avoir une certaine timidité de part et d'autre.
Quand absolument.
Un classique, quand on pense aux variations Goldberg, Karpis, Jarrett, on sent qu'il y, justement, il y avait une retenue peut-être.
Oui, une pudeur. Et puis, mais en fait, c'est vrai que je ne me pose plus la question maintenant. Je n'ai plus de pudeur à écrire la musique que j'aime. Peut-être serais-je le seul à aimer cette musique, celle que j'ai écrite, et les autres ne l'aimeront pas. Mais c'est l'avantage de ce 21e siècle, même si, encore une fois, les querelles ne sont pas encore tout à fait finies.
Alors, rassurez-vous, vous n'êtes pas le seul à aimer votre musique, Johannes Farjou.
Sinon, non, je vous remercie.
Je ne serais pas venu. Et je ne suis pas le seul. Alors, pour en revenir au poème que vous avez illustré, comment ça se passe? Vous avez choisi comment les poèmes que vous avez choisi de mettre en musique?
Alors, donc, ils émaillaient le premier roman de David Tepfer, le premier d'une série de 4 romans, hein, qui s'appelle Shikoku. Donc, il y a un cycle que j'ai intitulé d'ailleurs les Shikoku Songs. Shikoku, c'est une île japonaise. Les protagonistes, dont le protagoniste poète, font un voyage d'amour cycliste sur cette île japonaise, et c'est comme ça illustré de plusieurs poèmes. Il y en avait trop, évidemment, donc j'aurais de quoi faire plusieurs opus encore, mais je les ai sélectionnés selon mon cœur, tout simplement. Il n'y a même pas eu de discussion particulière, et David Tepfer a tout accepté avec plaisir.
Et le fait que ce soit des poèmes en anglais, est-ce que c'est plus facile, à la limite, pour le compositeur français que vous êtes, de mettre ça en musique, des poèmes en français dont il n'y a pas seulement la sonorité? Je ne dis pas que vous ne parlez pas anglais, mais je dis qu'il y a une distance par rapport à la langue qui fait que peut-être finalement c'est peut-être plus facile pour un français.
Oui, en tout cas, ça induit des inspirations différentes, une grande inspiration. Effectivement, mon anglais est limité.
Oh non, mais ce n'est pas ce que j'insinuais.
Ah non, mais vous pouvez l'insinuer, parce que je n'ai aucune honte à le dire. Ça m'a fait progresser, en revanche. Mais ce qui est très, très difficile, c'est la musique de l'anglais, parce que c'est vrai que nous, on a une langue assez monotone, sans accentuation. Donc ça a influé aussi sur ma musique, mais même le style de la musique, parce que les États-Unis, moi, tout de suite, appellent plein de choses, de Marilyn Monroe à Quentin Tarantino, à passant par, d'ailleurs, Strait, que dis-je, mille et autres exemples, et forcément, ça vient par connexion magique dans ma musique.
Alors on le lisait, ce disque est une magnifique affiche, répétez, Jeanne Gérard, Sandrine Pio, Ambroisine Bray, Delphine Hédan, Stanislas de Barberac, puis Rosemary Sandelet, puis les instrumentistes Geneviève Laurenceau, Arnaud Torette, Mathilde Calderini, ça fait plaisir de le répéter, et David Cadouche. Vous avez écrit pour eux, ou c'est eux après qui sont venus sur ce projet?
Alors j'ai réellement écrit pour eux, parce que l'avantage du confinement, c'est que le temps est long, donc on a le temps à la fois de composer et de prendre les contacts pour organiser le disque, alors que dans notre monde post-Covid et pré-Covid, mais encore plus post-Covid, on a le temps de rien, absolument de rien, tout doit se faire en même temps, etc.
Et puis il y a des projets qui tombent, des choses qui reviennent à la dernière minute.
Exactement, et donc j'ai eu cet avantage là de savoir à quels interprètes je m'adressais, et il est vrai que notamment vocalement parlant, mais aussi les instrumentistes, je m'adressais exactement à leur vocalité. Alors peut-être eux, ils vont considérer que c'était pas habile pour eux. Mais moi, ça s'adressait à ce que je fantasmais de leur voix ou de leur façon de jouer de l'instrument. Donc pour moi, c'était un rêve, hein, tout simplement éveillé.
Et alors Geneviève Laurenceau, bon, Arnaud Thoret, on connaît vos liens d'amitié musicale et amitié tout court. Geneviève Laurenceau, c'est une violoniste avec laquelle vous aviez déjà beaucoup travaillé.
Oui, je la connais depuis plus de 20 ans. On est très amis par ailleurs. Et puis c'est une des meilleures violonistes françaises, voire mondiales. Pour moi, c'était incroyable.
Oui, d'ailleurs, j'ai récemment interviewé un membre de l'orchestre du Capitole de Toulouse qui me disait à quel point il regrette le départ de Geneviève Laurenceau.
Ah, ça, je peux
violon
comprendre.
Solo, mais ça, c'est une autre histoire. Alors, donc, on va faire un détour par un autre disque qui est absolument magnifique, Sisters, un hommage à Lily et Nadia Boulanger. On en parle de plus en plus de Nadia Boulanger. On en parle surtout comme pédagogue. Parce qu'on rappelle à chaque fois tous ces illustres élèves de Michel Legrand, Bernstein, Copland et des dizaines d'autres, Quincy Jones. Ça, on dit les plus célébrissimes pour bien marquer qu'elle excellait avec Astor Piazzolla ou bien d'autres dans tous les genres. Mais ce qu'on connaît moins, ce sont ses compositions musicales sur lesquelles elle a été d'une très grande sévérité.
Oui, elle a été très sévère avec elle. Elle a même exercé une autocensure, notamment à la disparition trop précoce de sa sœur.
Alors, excusez-moi de vous interrompre pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément les sœurs Lily et Nadia Boulanger. C'était deux génies nés à la fin du 19e, dans les années 1870. L'une, Lily, a eu le prix de Rome et est morte tragiquement à 24 ans. Et l'autre, Nadia, donc, qui était son aînée, a survécu et puis est morte dans les 90 ans.
C'est ça.
Après avoir exercé des talents de pédagogue fabuleux. Mais donc, excusez-moi cette parenthèse, c'est pour les resituer.
Vous avez raison. Et d'ailleurs, je dois même rajouter que Nadia Boulanger est compositrice dès son plus jeune âge parce qu'elle a eu le deuxième prix de Rome.
Donc ce qu'on sait moins aussi.
Ce qu'on sait moins, mais ce sont les premières à les avoir obtenues. Première femme,
première
j'entends.
Femme, ouais. Et donc, ces œuvres de Nadia Boulanger, il y a des inédits. Il y a une pièce pour deux pianos. Que
oui.
Vous jouez tout seul.
Je joue tout seul.
Vous n'avez pas quatre mains, je peux en témoigner.
C'est la technique magique du re-recording. D'ailleurs, je peux citer l'ingénieur du son Alban Sautour parce qu'il a aussi enregistré le disque Lovescapes de composition. Il a fait ce miracle-là. Moi, j'avais le casque sur les oreilles et je me suis écouté. J'ai joué. Alors, c'était pas facile. C'était aussi parce que dans le confinement, on est seul. Hein. Donc, j'avais juste en cabine Alban Sautour au loin.
C'était enregistré où, ce disque?
Ça, c'était au Bal Blomet, exactement. Lovescapes à la salle Colonne. Ce que je dois dire aussi sur cette pièce, c'est que j'ai découvert récemment, on pensait que c'était une composition originale de Nadia. Il y en a d'autres, hein, bien sûr, sur le disque. En fait, il s'agit d'une transcription d'une symphonie de Vierne pour orgue. Et c'est un auditeur qui est gentiment nous l'a signalé. Ça avait échappé à ma sagacité. Je dois dire que je ne connais pas tout le répertoire d'orgue et celui de Vierne. Même si je l'adore, cette pièce m'avait échappé.
Et puis il y a d'autres œuvres pour piano seul et un morceau de concours pour le conservatoire que lui vous dites dans le texte qui accompagne ce disque d'ailleurs que vous l'avez quasiment joué dans les conditions du
c'est
concours.
Ça.
C'est-à-dire que c'est une des dernières œuvres que vous avez enregistrées pour le disque.
Je l'ai presque déchiffré parce que effectivement j'avais accès à des archives exceptionnelles. Tout ça en temps de confinement, grâce à Alexandra Lédéric, que je peux remercier
qui
publiquement.
Qui dirige la Fondation Nadia et Lily Boulanger.
Exactement, voilà. Et qui m'a facilité beaucoup de choses aux archives nationales, aussi à la Bibliothèque nationale. Et puis même le centre Nadia et Lily Boulanger possède des manuscrits. Donc j'avais les manuscrits en main et c'était très émouvant, évidemment, de travailler dessus.
Et comment ça se fait que cette si belle musique, elle vous a attendu pour voir le jour
Alors elle ne m'a pas exactement attendu parce que déjà les pièces pour piano ont toutes été enregistrées, à part les inédits, de façon éparse. Évidemment, je ne suis pas du tout le premier et mes prédécesseurs l'ont fait de façon géniale. Enfin, je n'ai aucune prétention sur ça. Ce qui est peut-être l'originalité de cette intégrale, c'est déjà que je réunis toute la musique pour piano des deux sœurs.
Déjà.
C'est une intégrale. Mmh. Et que par ailleurs, il y a des inédits qui y figurent, notamment cette pièce de déchiffrage que vous mentionnez. Et il y a peut-être cette mélodie qu'on doit mentionner de Nadia Boulanger, Mon âme.
Interprétée par Karine Deshaies.
Exactement. C'est une bonus track ou Karine Deshaies, parce que c'est une intégrale pour piano, mais cette bonus track vient montrer à quel point Nadia Boulanger était plus qu'une compositrice, c'était une génie.
Comme vraiment. Il vous manquait une star sur Lovescapes, vous l'avez prise pour votre disque, Nadia et Lily Boulanger, avec cette poésie, cette mélodie Mon âme, qui est de septembre 1906, qui est absolument magnifique.
Ah oui, c'est un chef-d'œuvre absolu. Il y a une grande, grande sincérité, une grande technique harmonique Vraiment, ça a été une grande compositrice.
Et ça, c'est Alexandra Ledré qui vous l'a trouvé,
oui,
cette mélodie.
Oui, à ce moment-là du disque, qui est sorti en juin dernier, il y avait aussi un premier tome de mélodies inédites qui était en train d'être édité avec le concours des chercheurs du centre Nadia et Lily Boulanger.
Et alors, donc ça, c'est la deuxième partie du disque, les œuvres de Nadia Boulanger. Nadia Boulanger qui a arrêté de composer à la mort de sa sœur.
Oui.
C'est une personnalité d'une grande complexité, Nadia Boulanger, qui était si exigeante avec les autres et avec elle-même, parce qu'on aurait effectivement le fait d'avoir arrêté la composition après la mort de sa sœur, on aurait aimé tellement savoir ce qu'elle aurait composé, dans quel style et quelle esthétique elle aurait composé après.
Oui, alors presque vrai dans sa totalité, elle a encore un tout petit peu composé, mais elle s'est auto-censurée à la mort de sa sœur. J'ai l'impression même qu'elle a arrêté d'aimer. Alors peut-être que là je vais trop loin dans la psychanalyse,
oui,
mais...
Oui, vous insinuez qu'il y a une liaison avec Ricardo Vines, Raphaël Pugno.
Oui, exactement.
Excusez-moi, je me suis trompé dans les grands pianistes de l'époque.
Mais c'est bien, bien aussi. Et peut-être qu'il y a eu cette volonté de transmettre, peut-être que tous ses élèves ont été ses enfants, que sais-je, bon, je vais peut-être beaucoup trop loin dans les interprétations psychanalytiques, mais c'est sûr qu'il y a eu une rupture évidemment à la sœur de la mort de sa sœur très très précocement.
Alors, ce sont des œuvres justement assez, il y a un côté assez léger, assez français, style un peu Chabrier peut-être, que je m'égare aussi dans les analogies, mais c'est un peu cet esprit français, oui, qu'on trouve dans ses compositions, qui tranche avec l'aspect sévère qu'elle donne sur les photos.
Oui, il y a beaucoup d'amour dans sa... Et c'est vrai qu'elle a montré autre chose, elle a montré peut-être qu'elle avait besoin de ça aussi pour imposer une autorité. Elle avait beaucoup d'élèves hommes, on a cartographié très peu de femmes en fait parmi ses étudiantes, c'est dommage. Et peut-être qu'elle avait besoin de ça, mais ça paraît, je fais des analyses qui n'ont peut-être rien à voir.
Alors ce disque qui est édité par le label Clart, il a une très belle couverture, une photo des deux sœurs, photo très rare que je ne connaissais pas. Avec une sorte de protection de Nadia Boulanger.
Oui, une protection presque animale. Elle sort ses griffes pour garder sa petite sœur avec elle, qui avait déjà des problèmes de santé toute sa vie. C'était dans l'appartement familial que cette photo a été prise au balcon, dans un balcon parisien, sur un balcon parisien.
Très belle photo qui donne le ton de ce disque qui s'ouvre par des œuvres de Lily Boulanger. Alors il y a quand même c'est très très différent les œuvres des deux sœurs.
Oui, oui, elles ont un style différent. En même temps, elles ont composé quasiment en même temps parce que il y a un cycle de trois pièces de Lily Boulanger qui ont été composées pendant qu'elle était en résidence à la Villa Médici. Pour son prix de Rome, et elle est venue la rejoindre, Nadia, et elle a composé aussi un cycle de trois pièces, à peu près au même moment, donc il y a vraiment une simultanéité dans leur créativité, et c'est bien dommage justement qu'elle n'ait pas perduré cette simultanéité.
Alors il y a des très beaux préludes, trois morceaux pour piano, et il y a ce thème et variation,
oui,
que je ne
sans
connaissais
doute le
pas
chef
non
d'œuvre,
plus, c'est une œuvre, oui, absolument merveilleuse.
Oui, oui, c'est merveilleux, c'est très sombre, et en même temps, c'est très ouvragé, c'est-à-dire que j'entends par là qu'il y a un vrai artisanat. C'est-à-dire qu'elle savait un thème et variation, c'est quand même vraiment le genre savant par excellence. Elle savait composer, elle savait utiliser des techniques au service d'une inspiration très grande.
Vous parlez de techniques, ce sont des œuvres très difficiles pianistiquement. Je parle pas de celles pour deux pianos que vous avez enregistrées tout seul,
oui,
mais les
difficile.
Autres œuvres, c'est difficile.
Voilà, le pianisme de Lily Boulanger, c'est-à-dire sa façon d'écrire pour le piano, est très complexe parce qu'elle superpose des strates sonores. Presque sans s'intéresser aux limites humaines du pianiste. Ça rend les choses difficiles pour les superposer et pour donner l'illusion que ces strates sonores sont cohérentes et qu'elles marchent ensemble.
Ce sont des œuvres que vous aviez travaillées avant de faire cet enregistrement ?
Pour certaines, oui, et j'ai beaucoup, beaucoup cravaché pendant le confinement pour ensuite pouvoir les sortir avec fluidité.
En tout cas, c'est un disque absolument magnifique, encore une fois, qui se termine par cette mélodie chantée par Karine Deshaies aussi. Karine Deshaies, ça fait partie de votre panthéon amical et musical.
Exactement, c'est la constellation dont je vous parlais. J'ai beaucoup de chance aussi. Karine Deshaies enregistre beaucoup avec l'ensemble Contraste, co-dirigé par Arnaud Torette que vous citiez tout à l'heure.
Enfin, vous avez beaucoup de chance, mais je pense que c'est réciproque. Ça ne ferait pas des années que toutes ces personnes font de la musique avec vous si elles ne trouvaient pas une réciprocité, mais je ne vais pas vous faire rougir.
J'espère.
Joanne Fargeau. Donc on va revenir à ce disque que vous avez, qui sont de vos compositions, Love Scapes, pour le label Alpha Classique. Vous l'avez enregistré après le disque Nadia Lili Boulanger.
Oui, c'est ça.
Et donc vous étiez encore sous l'emprise, en quelque sorte, de ces musiques.
C'est vrai que Lili et Nadia Boulanger m'ont toujours beaucoup influencé, par, quand je vous disais, cette tradition française, moi en tant que produit du Conservatoire de Paris, elles ont toujours été présentes aux côtés aussi de Ravel, de Fauré, etc.
Ouais, c'est pour ça que je le disais au début de cet entretien. J'ai beaucoup écouté les deux disques avant cet entretien. Justement, je les ai beaucoup réécoutés. Et c'est vrai que je trouve des liens entre les deux.
Oui, il y a des liens stylistiques, bien sûr. Et Nadia Boulanger, en plus, avec beaucoup de liens avec les États-Unis, que ce soit à travers les prestigieux élèves que vous avez mentionnés, mais aussi par ses voyages fréquents. Elle était une star aux États-Unis. Les États-Unis l'ont davantage reconnue que la France.
Oui, ben ça arrive souvent. Et puis il y avait ce conservatoire à Fontainebleau.
Exactement.
Avec tous ces musiciens américains. Alors, quand on écoute donc ce disque Lovescapes, comment ça s'est passé, la construction du disque? C'était évident dès le début?
J'ai déjà composé des cycles. Il y avait deux cycles. Un chanté par Sandrine Pio qui s'appelle Lovescapes, qui a donné le titre au disque. Et puis les Shikoku Songs. Donc autour de ces deux cycles, c'était facile de fabriquer ensuite, avec des mélodies séparées, un trajet de disque, avec en plus des textes parlés au début et à la fin. Finalement, les choses étaient assez naturelles.
Alors comment ça s'est passé? Parce que vous disiez, ce sont les poèmes extraits de romans de David Tapfer. Mais c'est quoi, vous avez décidé quand de les mettre en musique? C'est dès le début
Ouais, en fait, quand il m'a prêté son roman et que je l'ai lu et que j'ai trouvé génial, très émouvant, c'était de l'amour à la fois de tout temps, intemporel, et en même temps de l'amour très actuel d'aujourd'hui. Et ça m'a beaucoup plu, c'est ce qui me touche. Et puis ces poésies sont très... Alors c'est vrai qu'il y a l'exotisme de l'anglais dont vous parliez. Ça m'a aidé à voyager aussi dans mon imaginaire. Et puis ça m'a aidé aussi à trouver un rythme. Non, c'était une rencontre naturelle et ça devait déboucher sur ça.
Et alors vous composez à la table ou au piano?
Alors quand c'est très pianistique, j'ai besoin du piano quand même. Mais je compose, disons, principalement à la table. Mais bon, chacun son truc, hein, c'est pas...
Et alors oui, parce que là, le piano, je disais, il est très très présent. Il y a une ligne directrice du piano. Enfin, il y a une unité stylistique. C'est lui qui donne en fait l'unité, avec des chanteurs si différents, des voix si différentes, des mélodies si différentes. Mais il y a quand même le piano. C'est comme, enfin, comment le dire sans être maladroit. Enfin, voilà, il fait un décor, il plante un décor sonore qui lui donne une vraie unité à cette œuvre.
C'est vrai. Même j'irais au-delà de ça. Même c'est même peut-être un personnage. Et ce personnage dialogue avec l'incarnation de la poésie.
Ouais. Alors comment vous partagez votre temps pianiste, compositeur? C'est au gré de quoi? Des commandes, de vos souhaits
Oui, des commandes, et puis aussi, il faut quand même dire une chose, moi, mon métier de musicien me fait beaucoup voyager, donc ça prend beaucoup de temps.
Il y a du temps à attendre, il y a du temps dans les hôtels.
C'est vrai, mais pas tant que ça. En fait, pour moi, je ne peux pas composer en disant « Tiens, aujourd'hui, j'ai un créneau de libre entre 14 et 16 heures. » Non, il me faut un avant, un pendant et un après. Donc, il faut que je réserve, et ça, j'en parle parfois à mon agent, pour avoir des plages où je peux composer sans réellement être surconnecté au monde, parce que ces connexions-là m'empêchent de composer. Mais je parle vraiment, moi, personnellement.
En tout cas, deux disques absolument magnifiques, l'un consacré à Lili et Nadia Boulanger, Sisters pour le label Clart, l'autre Lovescapes pour le label Alpha Classique. J'ai déjà cité les nombreux grands artistes qui vous entourent, donc sur des poèmes de David Tapfer. Johann Farjou, il me reste à vous remercier infiniment d'avoir été mon invité.
C'est moi qui vous remercie.